Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 9 novembre 2018. Les marchés n'ont pas continué leur rebond hier parce que tout le monde a regardé la Fed et que Powell n'a rien dit de plus qui aurait laissé supposer qu'il changeait de stratégie. En gros, il ne va pas s'arrêter de monter les taux comme prévu. Il va continuer à se fâcher avec Trump de plus en plus comme prévu. Et nous, on va pouvoir continuer à flipper sa race que tout ça va nous amener en direction de la récession et qu'en plus, avec les élections de mi-mandat qui arrivent, nous allons avoir encore plus d'instabilité. Ah oui, non, pardon. Les élections de mi-mandat, c'est déjà passé. J'avais presque oublié tellement on n'en parle plus déjà. Je l'avoue, j'ironise quelque peu, mais je dois vous dire que je suis un poil fatigué d'entendre toujours et encore les mêmes théories avec des visions qui dépassent rarement le repas de midi. Tout le monde traite à court terme ces conneries de système d'algorithme, ont même pas une vision à 12 secondes et nous on sait même plus si on investit pour la semaine prochaine ou pour la retraite. On brasse de l'air à une vitesse phénoménale et les décisions que l'on prend, les mouvements de marché que l'on observe deviennent complètement aberrants, pour ne pas dire complètement débiles. Le bruit. Oui, encore une fois, on écoute le bruit du marché et nous sommes incapables d'investir dans quelque chose et d'attendre plus d'une année avec une vraie vision. Non, il faut agir à court terme, écouter les stratèges de CNBC qui tournent la veste plus vite que Trump est capable de tweeter et qui ne sont pas capables d'autre chose que de venir avec des objectifs idiots basés sur des théories que eux seuls comprennent et qui fonctionneraient éventuellement. Pour autant que l'économie soit soudainement devenue une science, ce qui est à peu près aussi probable que la télé-réalité demande d'être intelligent. Tout ça pour vous dire que les marchés n'ont rien fait hier en attendant la Fed, en attendant que Powell nous dise qu'il n'a rien à dire et que l'on se reverra en décembre pour monter les taux comme prévu, que ça plaise à Trump ou pas. En attendant, on ne parle plus des midterms, même si elles sont derrière nous, on ne parle plus de la trade war, on y reviendra la semaine prochaine, il faut savoir économiser les sujets, et on ne parle plus de l'Italie. Ça aussi, ça va nous revenir en pleine gueule un de ces jours, et on dira « Ah ben on l'avait pas vu venir, parce que tu comprends, c'est du long terme ». Et que le long terme, pour l'instant, dans le monde merveilleux de la finance, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. On en a tous entendu parler, mais on n'est pas vraiment sûr que ça existe. Bref, hier, il ne s'est rien passé de passionnant. On peut noter que Musk a été remplacé à la tête de Tesla, comme c'était prévu. La SEC y a mis une femme, Robin Denholm, qui est donc dorénavant la nouvelle chairwoman de Tesla. Le titre n'a rien fait sur la nouvelle. Ensuite, on continue dans les publications du mois avec de très bons chiffres chez TripAdvisor qui prenait 15% et puis des mauvais chiffres ou des mauvaises guidance pour Qualcomm, Square, Wynn Resort. Tout comme en Europe où l'on saluait les chiffres de la SocGen qui prenait un peu plus de 2%, la Société Générale qui était accompagnée par la Commerzbank qui n'avait pas de bons chiffres devant l'éternel, ce qui serait étonnant pour une banque allemande, mais qui annonçait que ses prévisions 2018 devraient être atteintes. C'est rassurant qu'à un mois de la fin de l'année, ils soient enfin à peu près sûrs d'où ils vont. Pendant ce temps, l'UBS passe un sale mois de novembre entre le département de la justice américain qui poursuit la banque pour une sombre histoire de produits pourris qui datent de 2007, comme quoi ils doivent vraiment avoir besoin de fric aux USA. La Migros Data devrait être dépassée depuis bien longtemps, mais non. Et puis dans la foulée, le gouvernement français se fait plaisir en demandant 1 milliard de plus à l'US à peu près toutes les 2 heures, non content d'avoir un président ridicule qui est capable d'être bien plus ridicule que François Hollande. Si, c'est possible. Voici que maintenant, il compte éponger le trou de la sécurité sociale en le faisant payer à l'UBS. Bon, l'UBS s'en tape, le titre montait de 1,3% hier, et visiblement, tout le monde s'en fout des amendes. Pour le reste, le pétrole est entré officiellement en bear market. Depuis que l'on nous a garanti que le pétrole allait à 100 pour Noël, quand nous étions à 75, le baril a perdu 20%, et nous sommes officiellement en dépression nerveuse côté pétrole. Je n'ai plus entendu de nouvelles du côté des ultra-convaincus. Enduron n'a pas reconfirmé son target à 300$, et il y en a bien d'autres que je n'ai pas entendu, mais je voudrais pas dire du mal. Le baril est à 60-65 ce matin. Pour ce qui est de l'or, tout le monde s'en fout, mais il est à 1219. Hier soir tard, après la Fed, il y avait les chiffres de Yelp. Grosse déception, le titre est en baisse de 30% after close. Et puis Activision est également en baisse de 9% pour avoir déçu sur le trimestre. Les sanctions continuent à être sévères. Dennis Gartman de la célèbre Gartman Newsletter, qui était méga boule au mois d'août avec un objectif à 30 000 sur le Dow Jones, vient de se rétracter et recommande de vendre le rallye sur force et de partir short. Il recommande de mettre 2% du portefeuille du côté short. 2%, waouh. Ça sent la conviction profonde. Autrement, d'autres copains à lui sont venus parler sur Twitter. On notera par exemple Douglas Cass, principal contributeur de TheStreet.com, qui pense qu'il faut shorter le secteur de l'armement parce que les démocrates sont dorénavant en charge de la commission des armées et qu'ils vont remplacer les escadrilles de Raptor par des vélos électriques de chez Stromer. Il pense également qu'il faut vendre les FANG sur force, voire tout de suite qu'il faut acheter des bons du trésor à court terme et stocker de l'eau et du riz dans sa cave. On ne sait jamais. Encore du bruit et du bruit. Personne n'est encore venu nous dire que telle ou telle société a de la valeur sur le long terme et qu'en construisant patiemment des portefeuilles qui payent des dividendes, par exemple, comme un immeuble paierait un loyer, nous ne serons pas déçus sur le long terme. Mais c'est quoi le long terme, au fait ? Bref, encore une fois, on nous pourrit la vie, la tête, avec des montagnes de nouvelles à court terme qui seront oubliées dans 3 semaines, que dis-je ? Dans 3 jours. Je vais noter dans mon agenda d'observer les recommandations de Doug Cass, histoire d'en reparler dans 1 mois, mais je suis certain que lui-même aura oublié son tweet de recommandation. Autrement, l'Italie continue d'en faire qu'à sa tête et veut augmenter les revenus des pauvres et des sans-emploi. Encore un truc qui va pas dans la ligne de Bruxelles. Les murs de ce bricolage qu'est l'Union européenne se fissurent de plus en plus et cela paraît incroyable que ça puisse encore durer alors qu'il n'y a plus que Merkel, Macron et ses potes de la Réunion qui y croient encore. Même si l'on en parle un peu moins, l'Italie pourrait être largement le déclencheur de l'effondrement de l'Empire européen. Ailleurs, le patron d'Alibaba veut faire du cloud son business principal, comme Amazon, et le Xi Jinping est en croisade pour rassurer les entreprises privées en Chine. Le gouvernement fera tout pour stopper la spirale baissière, quitte à sortir les tanks dans la rue pour forcer les gens à consommer. Côté chiffres du jour, il y aura le GDP en Angleterre ainsi que le trade balance. Tiens, ça me fait penser, on ne parle plus du Brexit. Où il est celui-là ? Et puis aux States, ça sera les ventes de machines à laver et de congélateurs avec les chiffres de la confiance du consommateur via l'Université du Michigan. Pour le moment, les futurs ne font rien. Voilà, bon, je crois que ça suffit pour cette semaine. On va profiter du week-end pour se ressourcer et attaquer le sujet de la trade war dès la semaine prochaine. En préambule, un week-end automnal forcément pluvieux, nous vous proposons également la chronique de Serge Lederman qui a suivi les midterms depuis les plages de Miami. Puis tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le high yield, ainsi que l'article de notre collègue Marco, qui a payé de sa personne pour vous livrer ses impressions sur le whisky 25 ans d'âge, idéal pour accompagner la lecture de la deuxième partie du texte sur les bienfaits de l'investissement factoriel. Mal de tête, garanti ce dimanche, à lundi, et très bonne fin de semaine.